37. Holly Gibney avait fait 2 séjours en clinique psychiatrique dans sa vie. Une fois à l'adolescence et la deuxième autour de ses 20 ans. Le psy qu'elle avait consulté plus tard, dans sa prétendue « maturité », avait qualifié ses vacances forcées de « rupture avec la réalité ». Ce qui n'était pas très bon, mais toujours mieux que des « ruptures psychotiques » dont beaucoup ne se remettaient jamais. Holly, quant à elle, avait un nom plus simple pour qualifier les dites ruptures. Elle les appelait ses « total panique », par opposition à l'état de panique légère à modérée qu'elle expérimentait au jour le jour dans sa vie. La totale panique de ses 20 ans lui avait été causée par son patron dans une agence immobilière de Cincinnati, la Frank Mitchell Fine Homes and Estates. Son patron était Frank Mitchell Jr., une gravure de mode au visage de truite intelligente. Il répétait à Holly que son travail était médiocre, que ses collègues la méprisaient et que son seul moyen de conserver sa place dans la boîte était qu'il continue à la couvrir, ce qu'il accepterait de faire si elle couchait avec lui. Holly ne voulait pas coucher avec Frank Mitchell Jr. et elle ne voulait pas perdre son travail. Si elle perdait son travail, elle perdrait son appartement et devrait retourner vivre avec son couard de père et sa despote de mère. Elle avait finalement résolu le conflit en arrivant de bonne heure un matin et en saccageant le bureau de Frank Mitchell Jr. On l'avait retrouvé dans son petit compartiment de bureau personnel, recroquevillé dans un coin. Le bout de ses doigts était en sang. Elle les avait rongés comme fait un animal pour tenter de se libérer d'un piège. La cause de sa première totale panique s'appelait Mike Sturdivant. C'était lui qui était à l'origine du sobriquet empoisonné de Jibba Jibba. À cette époque-là, élève de seconde au lycée, Holly n'avait d'autre souhait que de passer inaperçue, rasant les murs avec ses bouquins serrés contre sa poitrine naissante, l'écran de ses cheveux devant son visage grêlé d'acné. Mais déjà, elle avait des problèmes qui dépassaient largement l'acné. Des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, des problèmes d'insomnie. Pire que tout, des comportements d'auto-stimulation. Ça peut évoquer la masturbation, mais ce n'en est pas. Ce sont des mouvements compulsifs, accompagnés parfois de fragments de dialogue que l'on s'adresse à soi-même. Se ronger les ongles et se mordiller les lèvres sont des formes bénignes d'autostimulation. Les autostimulateurs les plus excentriques agitent les mains, se claquent la poitrine et les joues, ou effectuent des mouvements de bras comme s'ils levaient des poids invisibles. Dès l'âge de 8 ans environ, Holly avait commencé à serrer ses bras autour de ses épaules en tremblant de tout son corps, tout en faisant des grimaces et en se marmonnant à elle-même des paroles inintelligibles. Cela durait de 5 à 10 secondes, puis elle reprenait simplement l'activité à laquelle elle était en train de s'adonner. Lecture, couture, tirs au panier avec son père dans l'allée. Elle s'en apercevait à peine, à moins que sa mère ne la voie et ne lui ordonne d'arrêter de trembler et de faire des grimaces, les voisins allaient penser qu'elle avait une attaque. Mike Sturdivant était un de ces mâles dominants au comportement de nains de jardin qui regardent avec nostalgie leurs années lycées comme si c'était le grand âge d'or perdu de leur vie. Il était en terminale et, très semblable en cela à Cam Knowles, avait un physique d'Apollon, épaules larges, hanches étroites, jambes longues et chevelure si blonde qu'elle l'auréolait d'un halo. Il faisait partie de l'équipe de football, évidemment, et sortait avec la cheftaine des pom-pom girls. Évidemment. Il se situait dans la hiérarchie lycéenne à un niveau totalement différent de Holly Gibney, et dans des circonstances ordinaires, elle n'aurait jamais attiré son attention. Mais elle l'avait attiré lorsqu'un jour, alors qu'elle se rendait à la cafétéria, elle avait été prise d'un de ces épisodes d'autostimulation. Il se trouve que Mike Sturdivant et quelques-uns de ses potes footballeurs passaient par là. Il s'était arrêté pour la regarder. Cette fille qui s'étreignait elle-même en tremblant et en faisant une grimace qui lui abaissait les coins de la bouche et lui faisait des fentes à la place des yeux. Une série de petits sons inarticulés, peut-être des mots, peut-être pas, filtrés entre ses dents serrées. « C'est quoi ce charabia ?» lui avait demandé Mike. Holly avait desserré son étreinte sur ses épaules en le fixant avec de grands yeux étonnés. Elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle savait seulement qu'il la dévisageait. Tous ses copains la dévisageaient, en rigolant. Elle avait répliqué, bouche bée.
« Quoi ?»«
Ton charabia !» avait gueulé Mike. « Charabia de Jiba Jiba !»
Les autres avaient repris en chœur, pendant qu'elle s'enfuyait vers la cafétéria, tête baissée, fonçant dans les gens qu'elle croisait. À partir de là, Holly avait été connue de tous les élèves du lycée de Walnut Hills sous le nom de Jiba Jiba, et ce, jusqu'après les vacances de Noël. C'était là que sa mère l'avait retrouvée blottie toute nue dans la baignoire, disant qu'elle ne retournerait jamais à Walnut Hills, et que si sa mère l'obligeait, elle se tuerait. Voilà, totale panique. Quand elle était allée, un peu mieux, elle avait intégré un nouveau lycée où la vie avait été, un peu, moins stressante. Elle n'avait plus jamais été obligée de revoir Mike Sturdevant, mais elle faisait encore des rêves dans lesquels elle courait dans un interminable couloir de lycée, des fois rien qu'en culotte et en soutien-gorge, pendant que les gens riaient en la montrant du doigt et en l'appelant Jiba Jiba. Elle repense à ses chères années de lycée, pendant qu'elle et Jérôme suivent le gardien-chef à travers le dédale de salle situé sous l'auditorium Mingo. « C'est à lui que ressemblera Brady Hartsfield, » décide-t-elle, « à Mike Sturdevant, en chauve, c'est tout. » Et chauve, elle espère bien que Mike l'est aujourd'hui, où qu'il se trouve. Chauve, gras, prédiabétique, affligé d'une femme grincheuse et d'enfants ingrats. « Jiba Jiba !» se dit-elle. « Tu me le paieras !» se dit-elle. Gallison leur fait traverser l'atelier menuiserie et l'atelier costume, une enfilade de loges, puis un couloir assez large pour faire passer des décors de scène entiers. Le couloir aboutit à un monte-charge aux portes ouvertes. Une musique pop joyeuse résonne dans la cage de l'ascenseur. La chanson en cours parle d'amour et de danse. Rien à quoi Holly puisse s'identifier.
« Pas l'ascenseur, » dit Gallison. « Il mène en backstage, et il faudrait que vous traversiez la scène pour rejoindre l'auditorium. Écoutez, est-ce que ce type est vraiment en train d'avoir une crise cardiaque? Et vous, vous êtes vraiment des flics? Vous ressemblez pas à des flics. »
Il dévisage Jérôme.
« Vous êtes trop jeune ?»
Puis Holly, la mine encore plus dubitative.
« Et vous, vous êtes... »«
Trop bizarre ?» suggère Holly.
« Non, j'allais pas dire ça. »
« Peut-être pas. » Mais c'est ce qu'il pense. Holly le sait. Une fille surnommée naguère Jiba Jiba le sait toujours.
« J'appelle les flics, » dit Gallison. « Les vrais flics. Et si c'est une mauvaise plaisanterie ?»«
Faites ce que vous avez à faire, » dit Jérôme en pensant.
« Pourquoi pas ?»«
Qu'il appelle la garde nationale s'il veut. Tout ça sera terminé, d'une façon ou d'une autre, dans les prochaines minutes. »
Jérôme le sait. Et il voit bien que Holly aussi. Le revolver que lui a donné Hodges est dans sa poche. Il le sent, lourd et étrangement tiède. À part la carabine à air comprimé qu'il a eue quand il avait 9 ou 10 ans, un cadeau d'anniversaire qu'on lui avait fait malgré les réticences de sa mère, il n'a jamais porté une arme de sa vie. Et celle-là lui semble vivante.
Holly désigne le côté gauche de l'ascenseur. « Et cette porte ?»
Et comme Gallison ne répond pas immédiatement,
« Aidez-nous, s'il vous plaît. On n'est peut-être pas des vrais flics. Vous avez peut-être raison. » Mais il y a vraiment un type très dangereux dans le public ce soir. »
Elle prend une forte inspiration et prononce des paroles qui la stupéfient, même si elle les sait vraies.
« Monsieur, nous sommes votre seule ressource. »
Gallison réfléchit, puis dit.
« Par l'escalier, vous arriverez côté gauche de l'auditorium. Ça m'entraide. Arrivé en haut, il y aura 2 portes. Celle de gauche donne sur l'extérieur, celle de droite donne dans l'auditorium, au niveau de la scène. Vous risquez de vous en prendre plein les tympans. »
La main sur la crosse du revolver dans sa poche, Jérôme demande.
« Et où se trouvent exactement les rangs handicapés ?»«